Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs, du lundi au vendredi de 18h20 à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, réforme des retraites, accélérée ou temporisée, temporisée ou accélérée, le projet de loi sur les retraites à l'Assemblée nationale a donné lieu à des débats houleux et à des discours contradictoires sur la nécessité de prendre son temps devant une réforme aussi importante ou bien d'accélérer pour permettre son vote avant l'été prochain. Depuis quelques jours, la question de l'usage ou non du 49.3 agite d'ailleurs le milieu politique. C'est l'occasion pour le temps du débat de réfléchir à la temporalité législative confronté à celle de l'exécutif. Nous le ferons avec quatre invités. Daniel Obono, bonsoir, et porte-parole de la France Insoumise, députée de la 17e circonscription de Paris. Sandra Motin, bonsoir. Vous êtes députée LREM de l'Isère. Vous êtes désignée rapporteuse du volet organique de la réforme des retraites. Vous nous expliquerez ce dont il s'agit. Laureline Fontaine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle et autrice depuis 2016 du site ledroitdelafontaine.fr et coordinatrice de l'ouvrage Lire les constitutions aux éditions de l'Harmattan. Et enfin, Noéline Castagnès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences et historienne en histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Et vous êtes rédactrice en chef de la revue Parlement, dont le dernier numéro spécial s'intitule Couple en politique des guerres de religion à nos jours.
Il appartient, monsieur le président, à l'Assemblée nationale de faire vivre ce débat. Si ce débat vit et qu'il permet d'avancer dans de bonnes conditions, tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais à partir d'un certain moment, il faut être clair, nous nous sommes engagés sur ce système universel de retraite par répartition et par points, et l'engagement du gouvernement, le fait majoritaire, ça existe. Autrement dit, monsieur le président Abad, lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter, et j'utilise rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution.
Vous l'avez reconnu, il s'agissait d'Édouard Philippe, c'était à l'Assemblée avant-hier, mardi, et le Premier ministre répondait à Damien Abad, le président du groupe LR, à l'Assemblée. Prendre son temps, ça veut dire quoi quand on est parlementaire, Sandra Motin, vous qui découvrez justement ce métier de parlementaire, ça veut dire quoi prendre son temps aujourd'hui pour une réforme comme celle-ci? On peut laisser le temps à l'Assemblée de débattre.
Oui, c'est trouver en fait un bon équilibre, entre le temps nécessaire et le temps suffisant. C'est toute la difficulté de ce que nous avons à faire, c'est à la fois passer suffisamment de temps pour pouvoir explorer tous les aspects en fait de cette loi et des articles qu'elle comporte, mais c'est aussi avoir le temps suffisant, c'est-à-dire suffisant dans le sens pas trop long non plus, parce que ce n'est pas le seul texte que nous avons à étudier. Il y a actuellement plusieurs autres textes qui attendent, dont certains sont très importants pour nos concitoyens que nous souhaitons aussi pouvoir voter.
Alors, parce qu'il faut dire qu'effectivement, il y aura un temps particulier pendant cet été que l'Assemblée va fermer jusqu'au mois d'octobre et que c'est le prétexte qui est donné pour pouvoir accélérer justement vis-à-vis de cette fermeture pendant l'été de l'Assemblée nationale.
En réalité, effectivement, on a un souci.
Les travaux à l'Assemblée, c'est ça?
Exactement. On a un souci matériel cet été parce qu'il faut refaire une partie de ce beau bâtiment historique qu'est l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on a aussi un impératif, c'est celui de la loi de finances de sécurité sociale, dans lequel des dispositions doivent figurer de manière à ce que le nouveau régime de retraite que nous souhaitons puisse réellement entrer en vigueur dès 2022.
Daniel Obono, c'est quoi le bon temps pour une discussion parlementaire autour d'une réforme importante comme celle des retraites?
C'est tout le temps nécessaire et demandé. Je crois que sur cette question, on peut avoir des appréciations différentes, mais le vrai enjeu, c'est qui décide en vérité? Qui décide de ce qui est le temps nécessaire? La majorité va dire, voilà, nous on a prévu tel calendrier et on estime que ce qui était prévu au départ, 2 semaines sont suffisantes. Nous estimons que ça ne l'est pas. Et donc c'est vrai que c'est qui est-ce qui a le pouvoir d'arrêter le temps? Qui est-ce qui a le pouvoir de le prendre? Et je crois que par rapport aux institutions, puisqu'on parle de ça, le problème c'est qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui sur le fait que, en vérité, l'Assemblée n'a pas le pouvoir de décider de tout le temps qu'elle pourrait prendre et qui serait nécessaire. Donc effectivement, nous pensons, en fait, politiquement, nous sommes contre la réforme et nous donner le temps, tout le temps possible, y compris, c'est une tactique, comment on utilise le temps. C'est une tactique aussi
pour amener... Vous l'avez d'ailleurs présenté comme ça, comme une tactique.
Oui, mais je pense que les choses sont claires, mais ça veut dire aussi qu'on veut avoir le temps de déployer et que peut-être la majorité se rende compte que de son erreur et qu'il y ait un choix politique de dire de retirer. Donc voilà, la question c'est comment on l'utilise et qui a le pouvoir en fait de le prolonger ou de l'arrêter. Et je crois que une des difficultés dans laquelle on est, je pense, tous et toutes à l'Assemblée, c'est que ce pouvoir-là, en fait, on ne l'a pas. Et on parlera du 49-3. Mmh. C'est comme une espèce d'épée de Damoclès et de minuteur qu'on met au-dessus. Et je pense que c'est là où il y a peut-être un problème dans les institutions où, en fait, on devient prisonnier d'un temps qu'on devrait maîtriser de manière véritablement autonome et indépendante.
Laureline Fontaine, vous qui êtes professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle, vous pouvez nous expliquer, par exemple, que ce que dit Serge Sûr, donc grand spécialiste lui aussi de ces questions-là, qui dans Le Monde, c'était hier, disait l'article 49.3 de la Constitution n'est nullement un instrument de régime autoritaire. Et il parle justement des éléments constitutifs d'un côté d'un régime parlementaire qu'il distingue d'un régime d'assemblée. C'est quoi la différence ?
La différence entre le régime d'assemblée et le régime parlementaire, c'est que le régime d'assemblée est celui dans lequel l'assemblée gouverne. Et effectivement, nous sommes dans un régime parlementaire où il y a une collaboration entre le Parlement et le gouvernement pour établir
exécutif
les lois.
D'un côté, exactement. Et législatif.
Exécutif d'un côté, législatif de l'autre. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une différence si on compare avec les régimes étrangers où les moyens dont dispose le gouvernement sont ne sont pas tout à fait les mêmes, mais sont à peu près souvent comparables aux nôtres, mais où le gouvernement est l'image, en quelque sorte, du Parlement. Il n'y a pas de président au-dessus qui fait, en quelque sorte, la loi du gouvernement. Et ça change beaucoup les choses. C'est-à-dire que le gouvernement, qui a des instruments pour maîtriser la procédure législative, ne les utilise que dans un cadre où il est lui-même subordonné à sa majorité parlementaire, ce qui n'est pas le cas du régime de la Ve République. Donc, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, dans le cadre du régime parlementaire que nous avons établi depuis 1958, l'article 49.3, comme d'autres procédures, s'inscrit tout à fait dans la logique qui a été voulue de parlementarisme rationalisé.
Noéline Castagnès, vous qui donc êtes rédactrice en chef de la revue Parlement, vous êtes spécialiste aussi d'autres républiques que de la 5e. Vous avez travaillé aussi sur la 4e, par exemple. Il faudrait justement insister sur cette question de la gestion du temps comme étant l'argument ou un des arguments pour instaurer la 5e République, justement parce que cette 4e République ou cette 3e République honnie par les créateurs de la 5e était considérée comme des républiques qui prenaient trop leur temps. Il faut rappeler peut-être que les grandes lois sur lesquelles nous vivons encore, qui datent de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, que ce soit les lois des associations ou d'autres lois, ont mis plusieurs années à aboutir au Parlement.
Tout à fait. Alors, je crois que la détestation, entre guillemets, était plus envers la 4e République que la 3e, d'ailleurs.
Bien sûr.
Et ce qui avait frappé beaucoup sous la 4e, c'était ces impossibles majorités. Donc, on perdait du temps parce qu'il y avait une instabilité gouvernementale chronique. Mais pour autant, je crois aussi qu'on se plaît à rappeler les grandes réformes de la Libération qui ont été faites, alors, d'une part, soit par ordonnance par le gouvernement provisoire de la République, par exemple les ordonnances de 45 pour la sécurité sociale, mais la sécurité sociale, puisqu'on parle de la retraite, a été complétée par une loi de 47 et une loi de 48 qui se sont faites sans trop de difficultés, ma foi, parce que il y avait un consensus, et un consensus tout à fait exceptionnel, alors que
qui tenait à la guerre,
qui tenait à la guerre, mais enfin je rappelle quand même qu'il y a eu la crise du 4 mai 1947,
bien sûr.
Les ministres communistes sont partis dans l'opposition, mais en dépit de tout ça, qui était quand même pas rien, il y avait consensus pour cette République sociale qui était d'ailleurs inscrite dans le début de la Constitution.
Alors il y a peut-être une différence, c'est que j'imagine Sandra Motta et puis Daniel Obono que vous vous trouvez sous l'œil des caméras, sous l'œil des médias, que l'accélération médiatique est là aussi, et que d'une certaine façon le travail parlementaire est non pas pollué, mais disons conditionné aussi aux petites phrases, à la discussion, au débat public et à la participation, et vous le faites ce soir, à des débats médiatiques autour de ces questions, Sandra Motta.
Il y a de ça, mais je crois surtout que ça tient aussi à notre société, finalement, dans laquelle les gens veulent que les choses aillent vite. C'est vrai qu'on est dans un temps qui s'est accéléré pour tout le monde. Et finalement, on a l'impression des fois que le simple fait d'avoir parlé d'un projet de loi, d'en avoir défini un peu les contours, des fois suffirait aux citoyens, parce qu'il en a pris connaissance dans les médias, pour se dire ça y est, c'est fini.
Mais comment vous en avez l'impression en tant que député? Est-ce que vous, en discutant avec ceux que vous rencontrez dans votre circonscription, ou est-ce que c'est simplement une sorte d'idée comme ça qu'on se fait?
Non, c'est à la fois le temps médiatique qui y est consacré, parce qu'on se rend compte que on est vraiment sous le feu des projecteurs, on va dire, au début des discussions. Mmh. Et même des fois, on peut se dire, dans toute la première lecture d'un texte, mais quand, à la fin du processus,
les médias se lassent de ces discussions.
Ils s'intéressent beaucoup au début du processus, assez peu à la fin, parce qu'il est très loin après. Il peut être très longtemps après. Quand je parle effectivement avec des gens autour de moi, dans ma circonscription, avec les gens que je rencontre un peu partout, pas que dans ma permanence, aujourd'hui, je vous dirais presque que sur le texte des retraites, la plupart des gens me disent que, pour eux, dans leur esprit, c'est fait. Alors même qu'on n'en est encore qu'à l'article 5 de l'examen de la loi.
Daniel Obono.
Mais écoutez, moi je pense que ça dépend pour qui. Vous avez aussi un mouvement, il y a un temps social, un temps de la société, sûr. Un temps du mouvement.
Oui, on parle comme s'il n'y avait que le temps parlementaire et le temps de l'exécutif.
Il y a plusieurs espaces publics dans lesquels je pense qu'il faut respecter les rythmes de chacun aussi. Et des fois, il faut que les uns se fassent un peu bousculer parce que quand il y a trop de décalage, par exemple, entre le temps des institutions et le temps de la société, à un moment donné, les institutions deviennent complètement obsolètes. Donc je pense que c'est cette alchimie qu'il faut trouver. Mais aujourd'hui, en ce moment, on est régulièrement interpellé aussi par des secteurs qui sont en lutte, qui demandent à ce que on réponde à leurs questions, etc., et qui participent aussi au débat public. Et donc moi je crois que à un moment donné, si on veut, vous parliez des grandes lois qui ont fait la République, qui ont ancré pas simplement en termes institutionnels mais socialement et culturellement des principes et une organisation de la société, il faut se dire voilà, il y a des choses qui nécessitent de prendre du temps. Est-ce que une loi sur les retraites, le monument que c'est, ne nécessite pas de prendre le temps qu'il faut, y compris parce qu'il y a un fait majoritaire, vous l'avez dit, et que de toute façon, voilà, à un moment donné, il y aura un vote. Mais voilà, la question c'est, on pourrait retourner à la question, est-ce qu'il faut prendre du temps, mais qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse dans la société de l'information continue? On sait, il faut du contenu, il faut mettre, etc. Mais dans une institution, je pense que à un moment donné, faut se détacher de cette pression de la société et de la volonté d'aller toujours plus vite, parce qu'au bout d'un moment, on finit par confondre vitesse et précipitation, ouais. Et on se retrouve un ou deux ans plus tard à refaire une loi et à du coup perdre plus de temps parce qu'on aura fait les choses trop vite.
Alors, Aurélie Fontaine, vous avez, j'imagine, regardé en tant que spécialiste de droit public et constitutionnel, comment d'autres lois, comme d'ailleurs des lois sur les retraites, ont été adoptées. Elles ont été aussi rapides que celles-ci? Elles ont mis un peu plus de temps?
Alors, aussi rapide, ce sera difficile de le dire, ouais, puisque pour le moment, on est en pleine élaboration. Alors, j'ai regardé les trois dernières lois importantes sur les retraites, celle de Balladur en 93, de François Fillon en 2003 et d'Éric Woerth en 2010. On constate deux choses. Une augmentation à chaque fois un peu du temps d'adoption, mais qui est relativement court. C'est un mois pour la réforme Balladur, deux mois pour la réforme Fillon, trois mois pour aller la réforme Woerth. Donc c'est court.
Voulez dire sur la longueur de l'aller-retour entre Assemblée, Sénat, Assemblée?
Oui, c'est ça. À partir du dépôt par le gouvernement jusqu'à l'adoption finale. Donc c'est finalement relativement court, si on y réfléchit, mais les documents qui ont été donnés sont beaucoup plus courts aussi. Il y a, de ce point de vue aussi, un vrai changement. On passe de 14 pages avec le projet qui est déposé par Simone Veil en 93 à 168 pages aujourd'hui. Ça n'est pas que de la quantité, c'est aussi de la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, on demande quand même aujourd'hui aux parlementaires de travailler beaucoup plus vite sur plus de choses. Ça fait quand même écho aussi à d'autres choses qui se passent dans l'espace social. On demande de travailler plus vite sur plus de choses. C'est Armand Trosa qui disait que l'accélération est une pathologie de nos sociétés modernes.
Absolument.
Je pense qu'on va finir par ne plus penser que par cette idée de rapidité, d'accélération, on en oublie un certain nombre de choses. Et si je peux juste ajouter, effectivement, cette pression qui serait une pression de la société, à mon avis, n'est pas qu'une pression de la société, c'est aussi une forme de langage et de rhétorique qui a été adoptée par les institutions aussi. C'était très clair dans le programme d'Emmanuel Macron, hein, y a pas de surprise. Il a dit que la procédure accélérée, par exemple, devait devenir la procédure par défaut, c'est-à-dire la procédure de droit commun. Donc, il y a une application parfaite de ce qui avait été souhaité au départ de ce point de vue-là.
Noéline Castagnier, j'imagine qu'en tant qu'historienne, suivant la question des débats parlementaires, vous avez déjà entendu ce qui se dit autour de cette table, mais dans d'autres contextes où peut-être la presse était écrite et pas ni télévisuelle, ni audiovisuelle, ni même, comme aujourd'hui, électronique. Il y avait déjà cette idée que peut-être quand on était à l'exécutif, on voulait aller plus vite, et quand on était du côté du Parlement et de l'opposition, on voulait ralentir le rythme.
Oui, alors ça c'est pas nouveau. La publicisation des débats, c'est pas nouveau non plus. Alors c'est certain que maintenant, avec les chaînes d'infos en continu, Gilles Finkelstein parle de la dictature de l'urgence. C'est vrai que ça a dû grandement accentuer la difficulté. Mais il est certain que ça fait longtemps que on parle de rationalisation du Parlement. Alors tout à l'heure, on parlait de la troisième. Léon Blum, par exemple, avait réfléchi à ça avant même d'arriver au pouvoir. Mmh. Etc. Donc ça c'est pas un débat nouveau. La procédure accélérée, alors moi j'ai regardé un petit peu, c'est pareil, elle a été quand même beaucoup utilisée par exemple par les premiers gouvernements Mitterrand, Mauroy, alors j'avais trouvé les chiffres, hein, 36 fois, et le pire c'est Fabius en 85, 55 fois. Donc là non plus il y a pas réellement une nouveauté, même si bon monsieur Macron donc a dit que ça deviendrait la procédure par défaut. Donc c'est ce qui, je crois, change beaucoup de choses, moi, récemment, mais ça, tout le monde le dit, c'est le fait majoritaire. C'est-à-dire que le quinquennat... alors, déjà, l'élection du président au suffrage universel, refaisons les choses dans l'ordre, le quinquennat, et puis l'inversion des élections, ce fait majoritaire devient tel que maintenant, c'est pas tellement le temps de l'Assemblée, c'est le temps de la majorité. Celui qui tient le temps, le maître de l'horloge, c'est la majorité.
Et on peut écouter, d'ailleurs, à ce propos, Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, qui intervenait avant-hier, donc à l'Assemblée, pour évoquer ces questions-là.
Le 49-3, c'est le passage en force sans vote. Le 49-3, c'est un texte qui sera adopté et qui n'est pas financé. Le 49-3, c'est aussi le fait tout simplement que des centaines de questions sur les agriculteurs, sur la pénibilité, sur les carrières longues et autres resteront sans réponse. Et monsieur le Premier ministre, soyons clairs, jamais la droite n'a utilisé le 49-3 pour la réforme des retraites en 93, en 2003 ou en 2010. Et vous le savez parfaitement aujourd'hui. Et il existe une alternative. Cette alternative, c'est notre proposition de résolution qui vous fait une proposition très claire. Mettez un nouveau texte sur la table, financé, complet, en temps législatif programmé et qui évitera toute obstruction parlementaire. Parce que les Français en ont assez. Entre d'un côté les insoumis qui veulent bloquer, de l'autre les indignés de la majorité qui refusent le débat de fond. Et ils vous renvoient donc dos à dos. Et ils regrettent ce spectacle désolant d'une guérilla parlementaire qui est devenue irresponsable, qui est devenue inconséquente et qui tout simplement est devenue incompréhensible.
Voilà, il s'agissait de Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. On a ici une insoumise qui veut bloquer, selon ce qu'il dit, et une indignée de la majorité. Alors, l'indignée de la majorité, vous pouvez nous dire, justement, Sandra Motin, qu'est-ce qui empêche qu'on prenne un peu plus de temps? Je sais que le Premier ministre a déjà répondu, qu'il avait déjà laissé entendre que deux semaines ou trois semaines, c'était le bon temps pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Mais on peut dire aussi qu'en commission, on n'est pas allé au bout de l'analyse de ce texte, qu'il a été donc regardé en petite partie pendant le travail en commission. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne prendrait pas un peu plus de temps pour y réfléchir avant de lancer l'hypothèse d'un 49-3?
D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que le processus de construction de cette loi, il a été pour le coup très long, puisque ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce texte. Il y a eu énormément de réunions citoyennes, plus de 160 partout en France. Il y a eu un rapport, celui de Monsieur Delevoye. Il y a eu 4 mois de négociations avec, en plus, on va dire, du rapport avec le haut-commissaire au retrait. Donc, le temps, il a été très long avant que le texte nous arrive. Tellement long, d'ailleurs, qu'on nous reprochait beaucoup, début décembre, de ne pas avoir le texte.
Et d'ailleurs, on l'a, mais il n'est pas complet. Enfin, il y a des trous.
Il y a des ordonnances, mais vous savez, il y a plein de choses qui sont passées par ordonnance. Madame l'a rappelé. Moi, je vous en rappellerai 2 autres dans le champ du droit social. La 5e semaine de congés payés, c'est une ordonnance. Le passage de 40 à 39 heures, c'est une ordonnance. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent comme ça parce que ça permet justement de se donner du temps, les ordonnances, de se donner du temps pour continuer les négociations. Donc, ça, c'est important. Après, il y a une autre chose, c'est vrai, dans notre processus législatif, c'est que toutes les législatures, les unes après les autres, quand elles ont été confrontées à une opposition qui faisait un blocage, à chaque fois, ils ont essayé de trouver des armes anti-blocage. Mmh. Il y en a une, effectivement, que nous, on a reproposé à nos oppositions, qui est le temps législatif programmé. Qui aujourd'hui
qu'est-ce que vous entendez par le temps législatif programmé?
C'est un temps,
tous les auditeurs le savent.
Ça permet de se dire combien de temps on se donne justement pour étudier un texte. Et donc on définit à la proportionnelle, on va dire, de chaque groupe le temps qui est attribué à chacun pour pouvoir parler. On a proposé 120 heures de débat. 120 heures de débat, c'est très long. On l'avait fait, par exemple, sur des textes préalablement où on avait passé pour 80 heures plus de 2 semaines. Donc, on avait proposé 120 heures de débat. Les groupes GDR et France Insoumise ont refusé, et c'était leur droit, cette proposition. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans ce temps très très long de débat qui n'aboutira, hélas, peut-être pas.
Oui, Daniel Obono.
Non, mais en fait, je crois qu'on en revient à la question de qui décide, parce que il y a le temps de la majorité, effectivement, qui a pu participer aux échanges du rapport de Levoy, qui discute avec son exécutif, et puis le fait qu'il est important de rappeler, c'est que l'Assemblée nationale, ce n'est pas que la majorité. Et donc, il y a un certain nombre de processus auxquels nous n'avons pas voix au chapitre, nous ne décidons pas du calendrier. Et la vérité, c'est que on a une stratégie politique qui est d'obtenir le retrait du texte, et on utilise tous les moyens pour cela. Et donc, l'utilisation du temps et les maigres marges de manœuvre qu'on a, on l'utilise dans ce sens. Mais derrière, il y a quand même une vraie question, parce que on a parlé de beaucoup de types de temps. On n'a pas évoqué le temps électoral, parce que c'est quand même aussi...
qui est tout proche.
Voilà, c'est aussi un élément dans l'équation, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas des travaux à l'Assemblée nationale. C'est à partir de juin, on se dit, passer 2 mois, 1 mois ou 2 mois, je crois que dans l'histoire, il y a eu, on parlait de EDF, GDF, pour la privatisation, le changement de statut, pour TF1, il y a eu des moments où on a pris le temps, comme effectivement des moments où on a utilisé des ordonnances, mais c'était dans un contexte précis. Et là, on a quand même des contraintes qui sont utilisées pour justifier l'accélération, qui ne tiennent pas politiquement.
C'est-à-dire
nous, on assume d'utiliser le temps parce qu'on veut le retrait de ce texte, et on utilise des outils constitutionnels. C'est-à-dire que nous, on a proposé beaucoup d'amendements, un certain nombre ont été jugés irrecevables. Donc voilà, on utilise ces outils-là. Mais assumons aussi le fait qu'il y a un enjeu, une utilisation du temps électoral, parce qu'il y a une volonté d'obtenir un résultat qui satisfasse telle ambition. Donc voilà, je pense que chacun et chacune est dans son rôle, et que la question, c'est... comment est-ce que le rapport de force se poursuit ou pas? Et je pense que le problème, c'est que d'une certaine manière, le 49-3, il nous dessaisit tous et toutes de ce pouvoir qui devrait être quand même celui de l'Assemblée nationale. Moi, je crois encore, même si je crois pas à la régime parlementaire sous la 5e République, parce que justement, il est beaucoup réduit, je trouve que c'est quand même problématique et politiquement difficilement justifiable, simplement en disant que c'était les insoumis, les 17, qui ont bloqué les 577 ou les 300 de la majorité. Je pense que ça tient pas beaucoup comme argumentation.
On écoute plusieurs moments de la vie parlementaire depuis 1981 autour justement de cette utilisation du 49-3.
Aucune majorité ne se dégage en faveur du nouveau Conseil supérieur de l'audiovisuel. Seuls les socialistes l'approuvent en l'état. Alors ce n'est pas suffisant à l'Assemblée. Le Premier ministre Michel Rocard a donc décidé de faire passer son projet quand même en utilisant un article qui lui permet de l'adopter sans vote.
Et c'est le fameux 49-3.
À l'Assemblée, pour la 13e fois la nuit dernière, le Premier ministre a engagé avec l'article 49-3 la responsabilité de son gouvernement. Il fallait faire passer le projet de loi sur le collectif budgétaire. Il y a, semble-t-il, un record d'utilisation du 49-3. L'opposition crie à l'abus. Elle a d'ailleurs déposé une motion de censure, alors que l'Assemblée se réunit aujourd'hui en session extraordinaire pour rattraper son retard.
Ce 49-3 à répétition est dénoncé par l'opposition et par le Front National. On court-circuite le travail parlementaire, disent-ils. Le Premier ministre estime nécessaire ce 49-3 car les socialistes font de l'obstruction, selon lui, sans précédent.
Dernière passe d'armes à l'Assemblée nationale avant les vacances. Les socialistes ont déposé une motion de censure contre le gouvernement qui a décidé d'utiliser le 49-3 pour faire adopter le projet de décentralisation. Jean-Pierre Raffarin, critiqué par la gauche et par certains membres de sa majorité.
France Culture.
La politique, une journée électrique à l'Assemblée nationale. Comme au mois de février dernier, Manuel Valls a donc dégainé l'article 49-3 pour faire passer la loi Macron. Un acte d'efficacité appelé dès le Premier ministre, la droite et le front de gauche ont boycotté la séance.
Le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
C'est amusant parce qu'on dit toujours dégainer le 49-3 comme si on avait un revolver ou un fusil Winchester dans un western des années 1950 et de John Ford. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce 49-3, Laureline Fontaine, d'autant que en rassemblant des extraits de 49-3 comme ça depuis 1988 jusqu'à 2015, on passe au-dessus d'une réforme importante, c'est celle de 2008, la révision constitutionnelle. Est-ce que ça change quelque chose et pourquoi ce 49-3 est-il toujours brandi? Parce qu'on dit aussi brandir le 49-3 comme une menace ou comme une épée de Damoclès, c'est ce que disait tout à l'heure Daniel Le Bonneau.
Oui, dans l'esprit des constituants initiaux, en 58, il s'est agi de toute façon de fournir au gouvernement des armes. Hein, c'est vraiment le terme qui était utilisé, des armes.
Donc dégainer, ça va bien.
Oui, exactement. Exactement. Non, c'est vraiment dans cet esprit-là que ça a été conçu. Alors, évidemment, on a le souvenir d'un usage vraiment important du 49-3 avec le gouvernement Rocard, pour la simple et bonne raison qu'il n'avait pas
majorité.
Tellement fragile que pratiquement sur chaque projet de loi, il n'était pas sûr d'obtenir la majorité.
Bon. Ce n'est pas le cas du gouvernement d'aujourd'hui.
Ce n'est pas du tout le cas. Et dans les extraits qu'on a entendus, en fait, on a entendu un cas où il s'agissait de surmonter l'obstruction. Sur les 88 utilisations du 49-3 depuis 58, en fait, il y a très peu de cas où ça a été utilisé pour surmonter l'obstruction parlementaire. On citait tout à l'heure la privatisation de GDF, record d'amendements sous la 5e, plus de 127 000 ou 137 000 amendements.
Donc les 41 000 d'aujourd'hui, ça fait figure de
exactement.
Et petit joueur.
Le 49-3 n'a pas été utilisé à ce moment-là, par exemple. Alors, c'est vrai qu'en 2008, on a souhaité réduire l'utilisation du 49-3, et ça a plutôt pas mal marché, d'ailleurs, puisqu'il ne peut être utilisé qu'une seule fois par session pour un même texte, en sachant que sur le même texte, on peut l'utiliser plusieurs fois, première lecture, seconde lecture, évidemment, voire dernière lecture après la commission mixte paritaire. Donc, ce qui est intéressant dans le projet qui nous occupe, c'est que effectivement, le 49-3 veut être utilisé non pas pour rassembler une majorité, puisque globalement, je pense qu'il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Il n'y a pas de frondeur, comme c'était le cas avec Manuel Valls, par exemple. C'est simplement que on veut surmonter un cas d'obstruction parlementaire. Et je ne sais pas si on aura le temps tout à l'heure, mais ce qu'il faudrait peut-être interroger sur la question du temps, c'est le temps nécessaire, suffisant, ce sont des termes qui reviennent, mais il faudrait surtout savoir le temps de qui ou de quoi. Je pense que c'est quand même aussi ce qu'il y a de plus intéressant, parce que je suis d'accord pour dire que le temps a été très bien utilisé par le gouvernement pour préparer cette réforme des retraites, ça c'est tout à fait exact, mais à partir du moment où il a élaboré son projet, effectivement il n'a plus entendu donner aux autres du temps pour parler. Le Conseil d'État le souligne très bien dans son avis. Et quand on voit ce qui se passe maintenant, effectivement, il y a une réclamation à cet égard.
Sandra Motin, vous voulez réagir à ce que vient de dire Laureline Fontaine, justement, sur ce temps de préparation entre soi, d'une certaine façon, et ce temps laissé à la possibilité du débat avec ses opposants?
Alors, le temps laissé à la possibilité du débat, je crois que on l'a dans le sens où quand même aujourd'hui, nous on a repris juste les temps de parole de chaque groupe politique et aujourd'hui on voit si on prend nos oppositions, ils ont déjà parlé 35 heures quand en face nous on a parlé 5 heures. Et je prends vraiment tous les groupes majoritaires dedans, j'ai même étendu à l'UDI. Et donc concrètement, je crois que on a aussi dans ce Parlement qui compte 8 groupes politiques, ce qui est assez inédit aussi, hein. Ça fait beaucoup de groupes et où chaque groupe peut s'exprimer à chaque fois. Des temps de parole qui sont donnés effectivement aux oppositions, qui sont très larges. Après, j'entends effectivement ce que dit Madame Obono. On sait que le gouvernement et la majorité donnent aussi un tempo sur et choisit quand est-ce qu'ils souhaitent mettre un texte à l'étude et le temps qu'il a fallu pour préparer. Bon, après, en l'occurrence, cette réforme, elle était dans notre programme. Je crois que tout le monde travaille finalement dans chaque parti justement à préparer des projets, des contre-projets. Et je crois que votre question sur le de quoi enfin, pourquoi est utilisé ce temps, elle est aussi essentielle parce que aujourd'hui, je crois que notre frustration, quelque part, elle est surtout dans la technique qui a été choisie, hein, qui est tout à fait constitutionnelle et sur laquelle nous, on n'a rien à dire par l'opposition, ne permet pas finalement de prendre ce temps pour confronter des projets. Et c'est quelque part ce qui nous frustre un peu. Mais après, voilà, en l'occurrence, là, pour le coup, c'est plus nous qui avons la main.
C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'en vous entendant Sandra Motin et en entendant Daniel Obono, on a l'impression tout de même qu'il y a, par rapport à la fin de la semaine dernière, par exemple, une sorte de calme qui s'est instauré, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'idée que tout est en train d'exploser, qu'on est en train d'empêcher la majorité de travailler, et de l'autre côté, que vous entendez les uns ou les autres. Est-ce que c'est parce que le travail s'est mieux passé, Daniel Obono? Est-ce que là, vous avancez un peu plus vite? Est-ce que tout ce qui s'était dit au moment de l'examen du premier article, justement, sur l'obstruction, etc., est derrière vous?
Écoutez, je ne sais pas, on verra. Ça fait partie des moments du débat parlementaire. Il y a des moments qui peuvent être un peu plus intenses que d'autres et plus calmes. Du moment, du type d'article qu'on a, parce que c'est vrai que l'article 1, c'était les principes. Et donc, il y a eu un choix qui a été fait de beaucoup insister là-dessus, parce qu'après, ça va cadrer le débat. Et donc, voilà, ça dépendra. Mais moi, je récuse quand même l'idée que la majorité n'aurait plus la main. Bien sûr que si, on a parlé tout à l'heure du 49-3, si c'est avoir la main ultime quand même sur tout ça. Et donc, peut-être accepter que puisse s'exprimer, oui, à longueur d'intervention, comme c'est la possibilité, et la majorité a l'opportunité également d'intervenir dans le débat. C'est pas l'opposition qui l'empêche d'intervenir, c'est un choix tactique qui a été fait, et qui correspond à cette stratégie. Mais encore une fois, nous utilisons les moyens qui sont à notre disposition pour un objectif qui est que cette loi ne passe pas. Et à longueur d'intervention, à longueur d'interpellation, en tenant compte et en utilisant aussi, là aussi, c'est des arguments objectifs, c'est-à-dire que on est dans un moment de débat parlementaire où en même temps il y a des discussions de l'exécutif avec des secteurs concernés par la réforme. Donc on est un peu aussi
sur le financement.
Voilà, et donc on se retrouve jour après jour à avoir des annonces, etc. Donc il y a aussi cette simultanéité des choses qui est extrêmement problématique. Et j'espère que les débats seront plus abaissés qu'ils l'ont été. Mais bon, ça, encore une fois, ce n'est pas nous qui avons pour le coup le pouvoir de cela.
Noéline Castagnès.
Oui, ben je pense que ce que vous êtes en train de décrire, c'est finalement vous utilisez le temps des amendements pour argumenter. Mmh. Et cette publicisation du débat qui est quand même très forte vous permet aussi d'être entendu. Donc ça peut être audible. Le 49-3, ça met fin à la controverse, mais c'est une victoire un peu
à la Pyrrhus.
À la Pyrrhus, mmh. Oui. Voilà. Parce que ça risque de partir. Alors ceci dit, moi j'ai cherché un 49-3 qui envoyait les gens dans la rue.
Vous n'avez pas trouvé ?
Bah si, mais bon, qui ensuite entraîne la chute de la réforme, il y a le CPE, mais c'est pas si fréquent que ça non plus. Hein. Mais j'ai peut-être.
J'étais au CPE. Ouais. Voilà. J'étais dans les manifs. J'étais pas à l'Assemblée, mais j'étais dans les manifs.
Sandra Motin, sur ces questions, on a vu le Premier ministre intervenir avant-hier, calmer un peu le jeu en disant je veux laisser le temps du débat, d'ailleurs le temps du débat, à l'Assemblée nationale. Bon, on imagine que ça va pas durer très très longtemps. Alors les gens disent la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, ou au début, on ne sait pas très bien ce qui pourrait se passer, ou peut-être même ce week-end, on verra. Qu'est-ce qui pourrait justifier, selon vous, l'usage maintenant ou un peu plus tard du 49-3 en tant que députée de la majorité et rapporteuse du volet organique de la réforme des retraites?
Je vous dirais bien que, de toute façon, moi, en tant que parlementaire, je suis comme les autres, hein, je ne l'appelle pas de mes voeux, mais que il y aura bien un moment où le temps raisonnable, quelque part, sera dépassé parce qu'il ne nous permettra plus de suivre ce calendrier dont je vous parlais tout à l'heure et qui est nécessaire pour la loi de finances de sécurité sociale.
Mais qui décidera de cela? Parce que tout à l'heure on disait qui? Qui sera celui qui fixera la fin de la récréation ou qui dira, ben voilà, on va faire autre chose, on va passer au 49-3?
Le seul et unique dépositaire de cette décision et responsable de cette décision, c'est celui qui a répondu à la question tout à l'heure, c'est Edouard le Premier Philippe. Ministre, Édouard Philippe, qui l'a d'ailleurs placé sous cet angle-là, puisqu'il engage la responsabilité de son gouvernement.
Puisque derrière le 49-3, il y a effectivement la question de la motion de censure.
Par contre, je voudrais juste revenir, il y a une chose, moi, qui me parle, parce que à la base, je suis un peu linguiste quand même, Et quand j'entends qu'on dit on refuse le vote de la loi, donc on fait tout pour que la loi ne soit pas votée, c'est dire en fait que on ne cherche pas à convaincre les gens de voter contre. Et quelque part, oui, refuser qu'on vote une loi, c'est effectivement aller au bout d'une logique pour qu'on ne puisse pas voter. Alors qu'on devrait être dans une logique parlementaire d'essayer de convaincre pour voter contre, finalement, si on s'oppose. Donc, c'est vrai que, voilà, tout ça, effectivement, va nous mener, hélas, peut-être, à ne pas pouvoir voter la loi.
Oui, non, mais
je ne sais pas si c'est moi qui ai utilisé ces termes, mais ce que je disais, j'exprimais, c'était notre rejet du texte, c'est-à-dire qu'on votera contre et on espère qu'il soit retiré même avant qu'on arrive à la fin. Donc ça, c'est pas, on n'a pas le pouvoir de refuser le vote. De toute façon, encore une fois, il y a une majorité dans l'Assemblée nationale et on va arriver à un terme à un moment donné. Voilà, le nombre d'amendements, il est clos sur le texte. On peut encore rajouter des sous-amendements, mais franchement, ça n'a pas été faramineux. Donc à un moment donné, on va arriver. Là, on avait compté estimer à 5-6 semaines au maximum pour pouvoir finir tranquillement sans avoir, justement, en enjambant le temps électoral, puisqu'on considère que ce n'est pas ça qui devrait déterminer. Donc oui, ça va s'arrêter en vérité. Ce n'est pas vrai que ça empêchera un vote du budget, etc. Donc oui, il y a un temps raisonnable. La question, si on veut jouer sur les mots, il est raisonnable selon qui et en fonction de quel agenda. Donc pour vous, c'est raisonnable de faire ça en 2 semaines. Nous, on considère que ce n'est pas raisonnable. C'est ça qui n'est pas raisonnable. Donc voilà, c'est l'interprétation que chacun et chacune peut faire ensuite des mots et des choix politiques.
Laureline Fontaine, sur cette question justement du temps qui pourrait rester à organiser la discussion parlementaire autour de cette question de la réforme des retraites.
Encore une fois, tout dépend de l'objectif que l'on poursuit. En effet, il semblerait quand même qu'on ne conçoive pas vraiment le Parlement comme le lieu de la délibération. On accepte de préparer un projet de loi au niveau administratif et gouvernemental pendant près de 2 ans. Et c'est vrai qu'il paraît excessif au gouvernement de passer plusieurs semaines au Parlement. Je pense que de ce point de vue-là, simplement en constatant ce discours, il y a peut-être un déséquilibre qui se produit au profit du gouvernement.
Noéline Castagnès, vous disiez tout à l'heure que quelquefois, quand le 49-3 passe, eh bien, même ceux qui l'ont instauré, ce 49-3, qui l'ont décidé, sont pas toujours très satisfaits d'être passés par ce biais-là pour pouvoir faire accepter une loi, très brièvement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bah, je veux dire qu'il n'emporte pas l'adhésion, donc il y a toujours le risque d'avoir de la contestation, soit dans la rue, soit tout simplement dans certains milieux, etc.
Et vous ne le craignez pas ça, Sandra Motin, si par hasard on passe au 49-3 assez rapidement, que eh bien, ça apparaisse comme une sorte de réforme importante qui n'aurait pas été jusqu'au bout de sa discussion?
Ça paraîtra sûrement être ça. Après, la question, ce sera toujours, et c'est ce qu'on fait en général, on va rechercher qui est en responsabilité.
Merci beaucoup à vous, Sandra Motin, députée La République En Marche de l'Isère. Merci à Daniel Obono, porte-parole de la France Insoumise, députée de la 17e circonscription de Paris. Et merci à Laureline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnelle à Sorbonne Nouvelle, coordinatrice de l'ouvrage Lire les constitutions chez Harmattan, et à Noéline Castagnès, historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Orléans et rédactrice en chef de la revue Parlement, dont le dernier numéro vient de sortir sur les couples en politique des guerres de religion à nos jours. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier et Manon Prisset. À la technique aujourd'hui, YouTube Diego Ac Lopez. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Et voici de retour dans le studio Arnaud Laporte pour nous présenter le programme de la dispute de ce soir, une dispute autour de la bande dessinée.
Voilà, une fois de temps en temps, quand même le jeudi, on parle de bande dessinée, en l'occurrence on vous reviendra sur Angoulême et on s'intéressera aussi au rapport Racine. Au ministère de la Culture et de savoir ce qu'il dit concernant le statut des auteurs de bande dessinée en France en 2020.
Auteurs et artistes, je crois, qui sont au centre de cette réforme voulue donc par le rapport Racine et repris par Franck Riester.
Ouais, ça fera matière à quelques temps du débat, je pense. ça sera pas suite demain, Emmanuel.
Sur les Césars, nous allons nous poser la question de savoir si les jurys, quels qu'ils soient, jurys littéraires ou jurys liés au cinéma, sont réformables. Est-ce qu'il faut les réformer et comment ?
Alors oui, comment, c'est une autre histoire. Alors, vous en parlerez demain à 18h20. Merci Emmanuel Laurentin, les 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Céline Autain.